les mardis qui vont suivre. Voilà, c'est dans le prolongement de ce qui a été dit le dimanche concernant Samson, qui est l'image de l'Église, qui avait été attrapé par les Philistins et dont on a crevé les yeux. Et on avait expliqué que les abus et les dérives sont tellement visibles, même pour le païen. Vous savez, ce journaliste-là, je ne pense pas qu'il soit chrétien, le journaliste de France 24, qui a dit de sa bouche, c'est en réalité le marché qui est prêché et non pas Dieu. Voilà, je ne pense pas qu'il soit chrétien, mais il y a des choses qui sont visibles rien que par l'intelligence humaine. Mais on s'est souvent posé la question, mais comment l'homme, celui qui est dans ce genre de mouvement, dans ce genre de sauce, n'arrive plus à remarquer. Donc les questions ont été posées à nos bien-aimés. Et je voudrais dire aussi que lorsque nous présentons ces petites vidéos, nous ne lions pas ces gens-là à ces vidéos. Ça veut dire qu'un jour, peut-être qu'ils peuvent se repentir aussi. Mais nous les présentons pour dénoncer les agissements qui sont mauvais. Voilà, donc c'est cela. Mais nous ne les excluons pas du salut. Nous considérons que ce sont des humains qui peuvent aussi se repentir un jour. Bon, à moins que Dieu ait dit que certains avaient péché contre le Saint-Esprit. Mais sinon, le but, ce n'est pas de condamner des humains, mais c'est de condamner des agissements et donner à ceux qui n'ont pas encore vécu ce genre de choses des éléments. Vous savez, quand on n'a pas encore vécu ces choses, on ne comprend pas, nous, quand on a quitté ce genre de mouvement, quand on expliquait les choses aux gens, ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, ce genre d'émission est là pour aider ceux qui n'ont pas vécu directement ce genre de problème à être quand même prévenus, informés et être alertes, être sur leur garde. Voilà. Le Seigneur, c'est lui-même qui nous met en garde dans Matthieu 7. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est le Seigneur lui-même, Jésus. Il nous met en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à partir de ces deux interviews. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, nous lisons Jacques au chapitre 1er, verset 13. Jacques, chapitre 1er, verset 13. jusqu'à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà le mot le plus important de tout ce qu'on vient de voir, c'est le mot convoitise. Qu'est-ce qui explique que ces gens-là attirent beaucoup de monde? C'est la convoitise. Qu'est-ce qui explique que certains finissent par sortir de tels mouvements et pas d'autres? C'est toujours la convoitise. Le système de tous ces mouvements est basé sur la convoitise. Promettre des choses aux humains. Réveiller le côté valorisant dans les humains. Dire aux gens, vous êtes beau, vous êtes fort, ou alors on peut vous rendre beau ou fort. Voilà. C'est ça qui fait que ça a beaucoup de succès. Et c'est ça qui fait que beaucoup, même quand ils réalisent qu'il y a quand même des choses négatives, ils ont du mal à quitter parce qu'ils ont été déjà accrochés par leur propre convoitise. C'est ce que nous dit Jacques. Oui. Oui, ça marche.
Est-ce qu'il peut avoir aussi d'autres raisons? Est-ce qu'il y a l'ignorance aussi parfois qui font que certains sont aveuglés sans forcément qu'il y ait une convoitise?
L'ignorance va durer pas beaucoup parce que nous avons tous la Bible. Nous avons tous la Bible, nous pouvons la lire, mais c'est beaucoup plus parce que quand quelqu'un utilise une Bible, donc il nous pousse clairement, nous tous aussi, à lire la Bible. Même s'il ne le dit pas clairement, lisez la Bible, mais le fait qu'il utilise une Bible et que la Bible soit accessible, ça pousse, ça devrait pousser chacun aussi à lire par lui-même la Bible. Puisqu'on le fait même dans la vie courante, on a des professeurs qui nous donnent des cours. S'ils utilisent un livre et que nous on veut approfondir, on va acheter le même livre que le professeur. Donc ça se fait dans la vie courante qu'on veuille avoir la chose de la personne qui nous forme. Donc je pense que cette ignorance-là, si elle persiste, c'est le fait que quelque part la convoitise l'encourage. En fait, la convoitise t'encourage à ne pas chercher la vérité en lisant, mais à trouver des cadeaux facilement par l'homme. Je crois que l'ignorance est une faible raison. Parce que vu le contexte chrétien d'aujourd'hui où les Bibles sont accessibles à tout le monde. Voilà.
En fait, je voulais savoir, l'ignorance, je donnais un exemple, mais est-ce que c'est uniquement la convoitise ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons?
Ah oui, l'ignorance fait partie des raisons, mais c'est la raison principale, c'est la convoitise. D'accord. L'ignorance fait partie des raisons, mais je dis, elle est faible puisque, voilà, à un certain moment, on est confronté à la Bible. Voilà.
Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a la relation avec son pasteur qui entre en compte, une mauvaise relation où en fin de compte le pasteur n'est plus un berger mais c'est aussi le responsable de sa vie?
Oui, mais dû au fait qu'il nous facilite les choses ou bien on veut retirer des choses de chez lui.
En fait, souvent il y a beaucoup de gens qui prennent le pasteur un peu comme, même dans le catholicisme, c'est le curé qui fait tout.
Ah oui, mais c'est la convoitise du visible. Donc, c'est-à-dire que Dieu invisible, ça ne les arrange pas trop. Ils préfèrent l'homme visible. Donc, comme autrefois, ils ont fait des statues. Donc, le but, c'est de gérer, d'avoir Dieu visible et accessible par sa propre volonté. C'est-à-dire, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de trouver Dieu. Donc j'allume une bougie et il me comprend. Donc je décide ce que Dieu doit me faire et donc je le construis, je fais une statue. Mais aujourd'hui, comme c'est compris par la plupart que les statues, ce n'est pas bon, alors c'est le pasteur qui devient cette statue-là, ce Dieu-là qui devient visible, qu'on peut flatter, à qui on peut acheter une voiture. Ah, voilà, donc ça fait un échange avec un Dieu visible. Et le Dieu invisible, on n'en veut pas. Nous revenons toujours dans la convoitise. Donc, on veut un Dieu visible qu'on peut gérer. Moi, j'ai même d'autres exemples. On peut même proposer. Comme le frère Samuel a dit dans l'interview, il a dit qu'il était parti dans cette église-là, en réalité, pour faire l'école biblique. C'est ça. On vous propose des écoles bibliques pour faire de vous des pasteurs, pour faire de vous des combattants, des guerriers, et l'homme en réalité veut se construire lui-même par des moyens humains accessibles au lieu de laisser Dieu l'éduquer. On ne peut pas gérer l'éducation donnée par quelqu'un d'autre. L'homme veut s'éduquer par une formation qui ressemble à une formation du monde, et comme ça il est sûr d'y arriver, alors qu'avec Dieu, c'est l'obéissance qui compte, quoi. Il n'y a pas une assurance dès le départ, c'est vraiment on s'abandonne entre ses mains. L'homme ne veut pas s'abandonner entre les mains de Dieu. Il se dit, tiens, par telle formation, je vais devenir pasteur. Grâce à telle formation, je vais beaucoup connaître et je pourrai bien servir Dieu. Donc ça, nous revenons toujours dans la logique de la convoitise où on veut obtenir Dieu par des moyens humains. Et ça reste un problème. Oui. Toujours, Franck, oui.
En fait, ma question, c'est surtout par rapport aux enfants et aux jeunes qui sont élevés dans ces milieux-là et qui, en fait, n'ont eu que ça comme modèle. Donc là, ça peut prendre quand même pas mal de temps, quand même, avant qu'ils se réveillent, qu'ils comprennent que le modèle qu'on leur a donné, il est faux.
Oui, ça prend du temps, c'est vrai. Mais c'est souvent, comment on est libéré, c'est souvent par les contradictions qu'on va rencontrer. Moi, je viens de lire le livre d'un juif qui s'est converti à Jésus. Tu vas rencontrer des contradictions, mais il y a un attachement, comme tu viens de dire, tu es né dans ça. Il y a un attachement familial, un attachement comme culturel. Et lui disait, par exemple, il ne comprenait pas comment, dans une synagogue, on pouvait vendre la parole de Dieu aux enchères. On dit, Jean 3,16, qui donne 50 euros? Donc il y a quelqu'un qui dit, moi je donne 60. Et puis quelqu'un qui donne 100. Et donc il se disait, quand il rentrait chez lui, mais il avait 10 ans. Mais je ne comprends pas. Donc ça veut dire que Dieu ne donne que la parole aux riches. Puisque c'est les riches qui vont remporter les enchères toujours. Il était déjà embêté, il ne comprenait pas pourquoi il priait rapidement. Au fait, dans ces synagogues-là, c'était à celui qui prierait le plus rapidement. C'est-à-dire, les prières sont déjà connues de tous. C'est des prières comme du genre, notre Père, voilà. Maintenant, quand on commence à prier, c'est celui qui a vraiment rapidement mémorisé, il le fait vite. Donc, c'était une course de ce genre-là. Et lui, il avait 10 ans, il ne comprenait pas. Mais ce n'est pas pour cela qu'il quittait. Parce qu'où aller? Voilà, on a peur aussi de l'inconnu. On a peur de l'étranger et c'est quand même des contradictions que Dieu va utiliser plus tard pour bien te sortir. Mais ça commence déjà à travailler. C'est souvent ces contradictions-là où on se rend compte. Par exemple, je me souviens de Malcolm X. Il était dans un mouvement avec Elijah Mohamed. Mais quand on est venu, lui croyait que c'était un saint. Parce qu'il l'a vu physiquement lui apparaître en prison. Vous imaginez, vous voyez quelqu'un physiquement vous apparaître. Donc comme un fantôme, quoi. Il t'apparaît. Voilà. Alors, lui, pour lui, c'était un saint. Mais quand il y a eu des sœurs du mouvement, des filles du mouvement, parfois de 20 ans, 21 ans, qui venaient lui dire, mais je suis enceinte, c'est le prophète qui m'a rendue grosse. Alors, il y a ce choc-là, la contradiction qui est là. L'homme qu'on pensait être saint, voilà là où, voilà ce qu'il fait. Je crois que Dieu permet toujours ces contradictions. Maintenant, quand ces contradictions arrivent, il nous est demandé quand même un minimum de droiture pour reconnaître que quand même c'est des mauvaises choses. Alors que certains, face à ces contradictions, eux, ils se disent, tiens, moi aussi, quand je vais devenir prophète, je vais abuser tranquillement. Personne ne m'atteindra. Vous savez, à un moment, il y en a qui ont choisi. C'est pourquoi j'ai dit que c'est pas tout le monde qui est piégé. C'est d'une manière basse comme ça. Mais ce n'est pas non plus tout le monde aussi qui reste. À un moment, tous ceux qui sont dedans font face à des contradictions. Et il y en a qui disent, ah, là, il y a un problème. Mais il y a d'autres qui disent, ah, tiens, ces contradictions, ça satisfait vraiment la chair. Moi aussi, quand je serai pasteur, moi aussi, quand je serai à son poste, je pourrai aussi en profiter. Moi aussi, je peux faire comme lui. Nous, on connaît une église dans la région parisienne où le pasteur était sorti avec 40 femmes dans l'église. Alors, mais certains, quand on a fait les enquêtes, on a compris que certains évangélistes étaient au courant que le pasteur sortait avec leurs femmes. Mais eux aussi, ils répétaient ça. Donc, c'est des gens qui sont face à une contradiction, mais ils se disent, tiens, la contradiction peut me profiter à moi aussi. Donc, chacun fait. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que certains continuent à rester, mais d'autres, face à ces contradictions, se disent, non, moi, c'est contraire à ce qu'il nous a annoncé, c'est contraire à la parole de Dieu, je préfère m'en aller. C'est toujours la convoitise qui intervient après. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne, par exemple, elle fait partie des gens, comme tu dis souvent, qui reçoivent des prédications, mais, ou qui ne prêchent pas ou quoi que ce soit, mais qui ont ce talent-là, en tout cas de pouvoir apporter la parole facilement, et ils sont dans une assemblée, mais ils veulent aller dans une autre assemblée où on les a invités. Donc c'est eux qui sont venus, sachant que le serviteur, il n'est pas très... Enfin, il n'est pas très droit, mais ils invitent une personne qui est vraiment bien pour venir prêcher dans son assemblée. Elle peut y aller ou pas? Ou est-ce que si elle y va, elle risque d'être dans, de tomber dans...
Non, mais ça, ce sont des décisions personnelles. Mais, si on t'invite dans une assemblée qui est floue, est-ce que tu dois aller prêcher? Moi, je pense que c'est... Normalement, non, puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais cependant, on ne peut pas écarter cette possibilité à 100% parce que Dieu peut nous envoyer aussi prophétiser un malheur là-bas ou bien appeler à la repentance. Voilà. Maintenant, si on devient ami, on commence à aller prêcher régulièrement, là, il y a un problème. Mais si ce n'est qu'une fois, je crois que Dieu peut nous envoyer pour prophétiser un malheur ou appeler à la repentance. Oui?
Pasteur, je voulais revenir à la peur qu'elle expliquait la sœur Koyo dans son témoignage. Comment on peut expliquer cette peur en fait de pouvoir dire les choses. Je ne sais pas si tu.
Oui, premièrement, il y a la peur naturelle qu'on a des autorités, qu'on doit vaincre, puisque. Avec Jésus-Christ, nous voyons que quand même c'est différent. Jésus, vous vous souvenez de ce que Pierre pouvait lui dire, alors que Jésus c'est le Fils de Dieu, le Dieu lui-même. Donc normalement, en Christ, nous ne devons pas avoir peur d'une autorité, parce que ça reste un frère, ça reste une sœur en Christ. Voilà, donc on ne doit pas avoir peur. Ça c'est un, mais c'est la peur naturelle que les humains ont face à l'autorité, mais quelque part aussi, cette peur naturelle est liée au fait que l'autorité peut prendre des mesures sur nous. Voilà. Donc, on veut se protéger de ces mesures-là. Donc, on préfère ne rien dire. Mais deuxièmement, il y a la peur de se tromper aussi. Nous, ce qu'on a vécu, par exemple, dans la région parisienne, c'est que en allant assister à une conférence dans une église sur invitation, on entendait le pasteur dire la même chose que notre pasteur. À la télévision, quand tu suis quelque chose de chrétien, le pasteur disait la même chose que votre pasteur. Alors que toi, dans ton cœur, tu sens que c'est pas correct, il y a un souci. Mais comme tous les pasteurs disent la même chose, on finissait par avoir peur de dire peut-être c'est moi qui suis rebelle. Et donc, il y a cette peur-là de se tromper, de paraître rebelle, qui fait qu'on se dit, bon, c'est l'affaire de Dieu. Avec tous les versets qu'on connaît, ne touchez pas mes oins. Alors, on finit par dire, bon, c'est l'affaire de Dieu. Et on se tait. Et on se tait alors qu'on devrait jouer notre rôle de frère et de sœur pour se corriger les uns les autres. Et surtout, que dès le départ, on considère ces gens-là comme quand même étant de Dieu. Et on ne veut pas froisser Dieu aussi, en froissant l'œuvre de Dieu. Donc on se dit, mais je ne veux pas déranger l'œuvre de Dieu. Et nous, on a eu des cas où, bon, toi tu essaies, tu corriges la personne, ça se passe mal pour toi. Mais après, la personne semble valorisée encore par Dieu. Semble être valorisée encore par Dieu. Tu te dis, bon, là, c'est clair. C'est moi qui ai eu tort. Bon, moi, j'ai corrigé. Bon, moi, ma vie est devenue triste. Mais lui, le monsieur, ben, il semble être encore élevé par Dieu. Donc, Dieu n'a pas voulu que je fasse ce que j'ai fait. Donc, je crois que il y a un temps d'apprentissage dans ce moment-là pour connaître Dieu et se rendre compte que non, on doit quand même dire la vérité. Même si ça se passe mal pour nous, la vérité n'a pas, il n'y a pas de calcul pour la vérité. Et il y a aussi la peur liée à la convoitise. C'est-à-dire, on aspire à un poste, on aspire à prêcher, on aspire à quelque chose, on sait que l'autorité, c'est elle qui décide sur ces choses-là, sur ce pouvoir-là, et on ne veut pas froisser l'autorité. Donc c'est ça qui arrive souvent. Donc en grande partie, c'est la dernière peur que je viens de donner, mais il y a un faible pourcentage de gens qui, qui ont finalement peur parce qu'ils ne veulent pas froisser Dieu. Ils ne veulent pas s'opposer à Dieu. Donc là, à ces gens-là, il faut qu'on leur dise, mais non, tu ne t'opposes pas à Dieu en voulant dire la vérité. Voilà. Donc, mais à l'époque, tel que ça nous était prêché, tel que ça nous était expliqué, on avait l'impression que, bon, même si je dis ce que je pense être la vérité, mais du moment que ça déstabilise le pasteur, eh bien, ça déstabilise l'œuvre de Dieu, et l'œuvre de Dieu peut être freinée. Et on avait peur comme ça, et on s'arrêtait de parler, on ne disait plus rien. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que la vérité n'a pas de prix. Si on doit la dire, on dit la vérité. Ce qui compte, ce sont nos intentions. Tant que nos intentions, ce n'est pas de détruire, nos intentions, ce n'est pas de diviser, on doit dire la vérité. Soyons prudents par rapport à nos intentions, mais pas par rapport à la vérité. Voilà, c'est ça quoi.
Maintenant, est-ce que ces raisons-là peuvent aussi s'extrapoler sur la peur qu'on peut avoir sur les personnes qui l'entourent? Je m'explique. Par exemple, pour cette personne-là, me concernant, moi, je me souviens que quand, par exemple, il venait avec... par exemple, à l'équipe de louange. Quand il venait avec l'équipe de louange, il venait avec son équipe de louange. Et c'est vrai que du coup, quand on arrivait, on nous disait « Allez-vous, tchouk derrière ». Et du coup, moi je me souviens, c'est vrai que j'avais peur, donc parfois systématiquement, je me mettais derrière sans forcément même qu'on me dise de me mettre derrière.
Ah ben oui. Ben oui, c'est cette peur-là. Mais c'est parce qu'on a on a été ébloui. D'accord. On a été ébloui par la personne. Donc tout ce qu'on dit là n'est pas possible s'il n'y a pas un éblouissement quelque part. Donc on a dû être ébloui par la personne. Et à partir de cela, ça engendre une sorte d'élévation, une sorte d'idolâtrie. Voilà, qui n'est pas la même pour tous, mais qui se manifeste par le fait qu'on considère que tout ce que touche la personne est extraordinaire. Et on s'incline devant tout ce que touche la personne. C'est ça aussi. Donc on doit changer, on doit chercher le Seigneur. Il est écrit, par exemple, un des pièges qui est expliqué là, l'argent. Tout le monde veut l'argent. Or, ces gens-là promettent aussi l'argent. Vous serez bénis, touche mes mains, tu seras béni, ainsi de suite. Et il est écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Donc ça fait partie des problèmes qui font que ces gens-là prospèrent et augmentent en nombre parce que l'humanité est toujours la même. Elle aime l'argent. Et ces gens-là utilisent cet amour-là pour le matériel, cet amour pour les richesses, pour s'enrichir et eux-mêmes, en dupant les autres. Nous avons un exemple de duperie très simple que vous et moi nous connaissons, c'est la loterie. La loterie est une duperie très simple, c'est-à-dire qu'on est 100, sur 100 personnes, il n'y a que 5 personnes qui vont gagner. Mais... puisque toutes les 100, parmi les 100, chacun pense faire partie des 5 personnes. Et 95 échouent toujours. 95 sur 100. Et là, je simplifie, quoi. Mais c'est une duperie. Mathématiquement, on ne devrait pas jouer à ce genre de choses. Mais l'homme, comme il a la convoitise de richesse, eh bien, il tombe. Alors, imaginez que si les gens continuent à faire la loterie, à combien plus forte raison suivre de tels serviteurs de Dieu. Donc, il ne faut pas rêver sur le fait que les gens arrêtent. Ils n'arrêteront jamais. On peut faire des émissions, faire des séminaires. Ils n'arrêteront pas. Tant qu'ils ont la convoitise de l'argent, ils suivront des escrocs. C'est comme ça. Oui.
Pasteur, je voulais revenir sur... quand la sœur Koyo disait... à un moment donné, oui, qu'il fallait qu'il se repente. Mais la question que je me posais aussi, c'est que ces pasteurs-là, enfin ces faux pasteurs-là, à un moment donné, c'est clair et net qu'eux, ils savent qu'ils servent le diable, quoi. Ou est-ce qu'eux aussi, ils sont dans une ignorance et ils continuent à faire des choses parce qu'ils ont soif ou parce qu'ils sont, ils sont dans la convoitise de l'argent, ou est-ce qu'à un moment donné, ils signent un pacte aussi avec le diable?
Il y a beaucoup qui... Au fait, moi, je pense que le système est fait de cette manière, de la manière suivante. Il y en a qui ont été infiltrés par le diable lui-même et qui ont séduit des vrais serviteurs, qui ont séduit des vrais chrétiens. Et ces vrais chrétiens-là, la, leur plus grande séduction, ce n'est pas l'argent, c'est la divinisation personnelle. C'est-à-dire que ces gens-là ont ruminé une ambition personnelle de devenir quelqu'un, de devenir presque Dieu. Et ce qui fait que, quand bien même ils constatent que là, c'est que je suis dans le péché, ils se sont divinisés d'abord déjà eux-mêmes et ils se pardonnent. Et nous, on ne comprend pas comment ces gens-là qui connaissent quand même la parole ne se rendent pas compte. Et certains, parfois, on les a connus marchant dans la vérité. Mais comment ne se rendent-ils pas compte qu'ils pêchent? Ce qu'on ignore, c'est que quelqu'un qui s'est divinisé s'excuse tout. Quelqu'un qui s'est divinisé, il s'excuse tout. Donc il considère, c'est comme un enfant gâté. Donc il considère que tout lui est dû. Et c'est comme ça que le diable commence. Il commence par te pousser à te diviniser. Et quand tu t'es divinisé, c'est comme ça. Un exemple de divinisation, on voit avec Saül, hein, on lui donne des ordres par Dieu à travers sa mère, il ne suit pas. Parce qu'il s'est divinisé lui-même. Mais David, lui, il est resté un homme. Et donc, quand les soldats font un exploit pour prendre de l'eau dans la citerne de Bethléem, ils traversent le camp ennemi, ils ramènent l'eau à David. David a dit, moi, je ne peux pas boire de cette eau. Ces soldats ont risqué leur vie pour prendre cette eau. Ce n'est pas de mon niveau. Ça, un tel sacrifice n'est réservé qu'à Dieu seul. On voit la différence entre un homme élevé, mais qui reste homme, et un homme élevé qui devient Dieu. Saül, lui, il se considérait maintenant comme Dieu. Donc, il gagnait pendant les guerres, il était costaud physiquement aussi, il était roi, et finalement, il ne voulait plus écouter Dieu parce que lui-même, il était devenu comme un Dieu. Et souvent, on se dit, mais tiens, comment il ne voit pas? Il voit, mais il s'excuse ça. Il considère que tout lui est dû. Voilà. Et c'est ça que le travail essentiel que le diable fait dans les gens qu'on a connus, plus ou moins vrais chrétiens, et qui aujourd'hui font le péché tranquillement. Ils le font parce qu'ils sont devenus Dieu. Et ils s'excusent tout. Ils trouvent toujours des parades, parce qu'ils ne se considèrent plus vraiment comme hommes. Ils se considèrent comme spéciaux, des gens spéciaux mis à part par Dieu. Et c'est cela. On a vu parfois des gens dire une chose et faire le contraire tout de suite après. Parce qu'ils considèraient qu'ils les ont dites, ils ont dit la chose pour nous, pas pour eux-mêmes. Parce que eux, ça va, ils sont bons. Mais c'est vraiment dans l'intérieur, en eux-mêmes, quoi.
D'où vient l'utilité des prophéties qui nourrissent ça? Parce que des gens vont dire, ah, t'as un grand appel sur ta vie. Et
voilà, on divinise la personne. Tu es fort, tu as un appel, Dieu va t'utiliser puissamment, tu vas sortir beaucoup de CD. Et là, la personne se sent élevée. Et quand la personne se sent élevée, elle se prend pour Dieu, mais à son niveau. Vous savez, il ne faut pas penser qu'on peut se prendre Dieu que lorsqu'on est comme Hitler. Non, chacun a son public sur qui il est Dieu. Il y en a qui se contenteront d'être Dieu juste dans leur famille. Il y en a qui voudront être Dieu dans une église. Il y en a qui chercheront à être Dieu dans un pays. Mais quand même Dieu. Donc être comme la personne centrale, la personne exceptionnelle. Voilà. Parce que souvent quand on dit Dieu, mais les gens voient toujours grand. Dieu, il est grand. Mais oui, mais les hommes, il y en a qui peuvent se contenter d'être juste Dieu dans sa tribu. Juste Dieu dans son pays, juste Dieu pour son mari, juste Dieu pour sa femme. Donc, c'est, les niveaux sont différents, mais c'est toujours la même chose. Je suis le personnage central de l'affaire et tout m'est dû. Voilà, c'est ça qui est le vrai problème. Et après, c'est normal que quand ils font le mal, ils considèrent qu'eux, ils peuvent, ils ont le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Oui.
moi, j'essaie de fait de mettre à la place. Par exemple, on est là, on est tranquille, et puis il y a quelqu'un qui arrive, un prophète ou un chrétien, enfin quelqu'un qui a une onction entre guillemets particulière, qui vient te dire oui, toi tu vas être puissante dans l'intercession, alors que à la base, toi-même, t'as déjà du mal à prier. Mais moi, je me dis que si la personne vient me dire ça, forcément, je vais me poser des questions sur moi-même, quoi. Je sais pas si tu comprends.
Ah non.
Tu vas te dire oh là là. Mais
ah non, tu vas être content. On te dit que tu seras grand. Pourquoi ça veut... au fait, quand il y a des doutes en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à t'approcher de la personne qui t'a prophétisé ça, pour qu'il répète sans cesse.
Mais oui, c'est ça, c'est un piège.
Mais c'est ça justement le piège qu'on dénonce ici. Donc, oui, tu as des doutes. Ah non, moi je ne suis pas à ce niveau-là. Donc, prochaine réunion où, si c'est un pasteur qui était visiteur, le jour où tu apprends qu'il revient, tu es là. Pour qu'il te redise encore la même chose. Si tu apprends qu'il est à Caen, il fait un tour là-bas, il vient des États-Unis, tu vas là, tu veux encore le voir, parce que c'est lui qui t'a dit ça, il te rappelle la chose. Moi, c'est ça. Le flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute.
Si j'avais, s'il m'avait dit, je sais pas, comme Samuel, il expliquait un gymnase à mon nom, bon, j'aurais pas tilté, mais là, quand on sait vraiment, quand on te dit que tu vas faire l'intercession, donc intercession, c'est quand même, c'est pour le Seigneur, c'est quelque chose.
Mais oui.
Tu vois, donc peut-être tu te dis, mais peut-être que la personne, parce que ça apporte, entre guillemets, pas de gloire particulière.
Ah donc. Si, c'est là où on ne se comprend pas. Il faut savoir que, comme je dis, chacun est Dieu quelque part. Donc, toi, pour toi, l'intercession, ça te dit rien. Mais pour certaines personnes qu'on lui dise que tu es intercesseur des nations, c'est grand pour certains. On a vu une dame qu'on avait suspendue, parce que c'est elle qui faisait la Sainte Cène, mais elle a fait toute une histoire. Elle a dit, moi quand je coupe le pain, je ne connais pas le nombre de gens qui vont prendre, mais ça tombe pile poil. Donc pour toi, distribuer la Sainte Cène, c'est rien. Mais pour quelqu'un d'autre distribuer la Sainte Cène, moi j'ai vu en Guyane, les gens quand on a dit c'était la Sainte Cène, il faut voir les gens, les papas là, ils se sont levés en costume comme si c'était, ils allaient au conseil des ministres quand il fallait entrer dans la salle pour couper. J'ai dit, mais c'est, donc, tu sens qu'il y a une odeur d'orgueil qui circule là, dans leur marche. Moi j'ai regardé dans la salle, il y a quelqu'un qui a fermé la porte, carrément, moi j'ai dit, là... Vraiment, c'est du sérieux, c'est le conseil des ministres. Rien que la Sainte-Sainte. Donc, c'est ça, il ne faut pas comparer les convoitises. La convoitise, c'est la convoitise. Voilà, donc chacun va vouloir être Dieu quelque part. Voilà, pour elle, elle était comme Dieu, elle pouvait couper exactement le nombre de pains qu'il fallait. Mais comment savoir ça? Parce que si peut-être quelqu'un voulait avoir... Bon, bref, oui.
Pasteur, je voulais savoir, est-ce que toutes ces choses n'arrivent pas aussi parce que les gens ne lisent pas assez la parole de Dieu? Par exemple, je vois le cas du premier reportage qu'on a regardé, le monsieur qui se fait introniser roi. Pourtant, la Bible dit il n'y a aucun autre Dieu que Dieu. Mais les gens applaudissent, les gens...
Oui, mais on l'a pas consacré roi. On n'a pas consacré Dieu, on l'a consacré roi. Oui, ils vont dire on ne l'a pas consacré Dieu.
Mais tu vois comment il était élevé, il est tout en haut,
oui.
Sur une chaire, ou sur un trône, tout ça, mais c'est aberrant quand même.
Oui, mais on va te dire que David aussi était des rois.
Oui, mais ils n'étaient pas élevés comme ça. On a pas, dans la Bible, on ne voit pas que David était élevé à ce point-là. Comme
non,
ça.
On chantait, David a tué ses 10 000, Saül a tué 1000. Ils vont te trouver des versets.
Parce que là, on a l'impression qu'il a, limite, il a pris la place de Dieu, en fait. Et tout le monde applaudit, en fait.
Ah oui, tu as vu comment la foule a applaudi quand il a été élevé. Voilà. Parce que la foule aussi se voit comme ça. Un jour, moi aussi, on m'applaudira. C'est tout. Hein? Un jour, moi aussi. C'est la même convoitise qu'il y a dans le cœur.
Ils cautionnent ces choses-là parce qu'ils pensent à eux.
À eux-mêmes. On a demandé à un petit garçon aux États-Unis, quel métier tu auras quand tu seras grand? Je serai pasteur. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui soutiennent ça, quelque part, ils se disent, moi aussi, en faisant la formation qu'il a faite, je vais devenir aussi pareil. C'est ça.
Hein? Oui, pasteur, bon, je connais un peu ta réponse, mais je la pose quand même parce que je me dis, mis à part bon, tous ces faux pasteurs qui agissent comme ça, il y a aussi d'autres personnes, on va dire inconscients, même si tu me dis que c'est la convoitise. Mais
au début, on peut être inconscient, Mais ça ne peut pas durer parce que le Saint-Esprit existe. Oui. Il parle.
Oui, mais voilà. Regarde par exemple tous ces gens-là où on va dire que, comme disait la sœur Koyo, qui se sont mariés, c'était des mariages arrangés, tout ça. D'autres peut-être étaient, enfin, comment je vais dire, c'est pas qu'ils recherchaient peut-être le mariage ou quoi que ce soit, mais peut-être, est-ce qu'il y a aussi ce côté-là, rechercher le mariage, donc ils se sont arrangés comme ça, ou d'autres, ça s'est fait aussi parce qu'ils estimaient que le
mariage... Non, on connaît certains cas où on était intervenu parfois pour dire... donner des éléments concrets qui n'allaient pas. Mais la personne a préféré écouter la prophétie qu'on lui a donnée. Voilà. Donc, c'est lié à la convoitise de vouloir se marier et on préfère négliger des éléments réels que tu as vus du caractère de la personne pour opter pour la prophétie d'arrangement.
D'accord. Voilà. Et donc, si maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être parmi des frères ou sœurs qui ont pu avoir ce genre de comportement et ils se rendent compte que le serviteur était dans le faux... Et dans le mariage, ça ne va pas. C'est comment ils peuvent...
Ils se convertissent maintenant. Non, ils se convertissent maintenant et ils vivent maintenant ensemble bien. Voilà. Oui.
Moi, c'est par rapport au mot convoitise, parce que je pense que dans les personnes qui tombent sous le joug de ces gens-là, je crois qu'il doit y en avoir qui n'ont pas véritablement peut-être de la convoitise en eux, mais qui se laissent séduire parce que c'est toujours le problème des paroles de connaissance ou des prophéties, qui peuvent peut-être se sentir seulement rassurés. Là, être rassuré, ce n'est pas forcément convoité. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont quand même très, très humbles à la base, qui n'ont pas d'envie spéciale, qui ne recherchent pas quelque chose de spécial, mais qui se laissent berner parce que à force de prophétie...
Mais là, nous revenons au problème de l'invisibilité. Donc, c'est des gens qui préfèrent quelque chose qui éblouit, qui te rassure venant de l'homme, plutôt que ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole. C'est ça. Donc, c'est des gens qui préfèrent l'homme à Dieu lui-même. Et c'est comme les enfants d'Israël. L'invisibilité de Dieu les gênait. Donc, ils ont préféré faire la statue. Et d'ailleurs, ce que tu dis là est vrai. Parce que un serviteur de Dieu nous a expliqué en Israël. Il a dit, pour eux, ils considéraient que l'Éternel, c'est vraiment ce veau-là. C'est-à-dire que ce n'était pas un deuxième Dieu pour eux. Parce que nous, souvent, quand on lit ce texte-là, on se dit, ils se sont fait un deuxième Dieu. Non, pour eux, c'était l'Éternel. Mais le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, c'est toi. Voilà, donc, ils ont voulu matérialiser le Dieu qui les a sortis d'Égypte. Ils n'ont pas fait un deuxième Dieu. Donc pour eux, c'était ce Dieu-là. Donc l'homme veut rendre Dieu visible, palpable, accessible, selon sa volonté à lui. Et Dieu a toujours refusé ça. Dieu dit, je suis plus grand que tout. Et c'est moi qui m'ouvre à vous, ce n'est pas vous qui m'obligez quoi que ce soit. Et donc c'est ce que tu prétends être des gens simples. Ils ont le péché comme tous les humains. Et un des péchés principaux de l'homme avec lequel il naît, c'est la rivalité avec Dieu. C'est le fait de vouloir se faire son Dieu. C'est ce péché-là qui est dangereux.
Moi, je n'arrive pas à faire la relation entre ce que je demandais et ce veau d'or, parce que ce veau d'or, moi, je trouve ça tellement... Je n'arrive même pas à comprendre que les hommes aient pu se penser que c'était leur Dieu, hein, quelque chose qu'ils ont fabriqué comme ça, du jour au lendemain.
Oui, mais parce que tu dis que c'était des gens simples. Et dans leur simplicité, ils ne concevaient pas que Dieu soit invisible. Il faut que ce soit quelque chose. C'est pourquoi ils ont fait un veau. Quelque chose d'innocent, mais quand même quelque chose de visible. C'était des gens simples, ils voulaient être bercés dans leur psychologie par quelque chose de reposant. Et c'est ce que tu viens d'expliquer, tu dis qu'il y a des gens qui veulent être rassurés, mais ils ne veulent pas être rassurés par Dieu, mais parce qu'eux-mêmes, ils ont décidé comme principe pour les rassurer, c'est que ça vient de la bouche d'un homme.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui enfin je suppose, c'est une supposition, qui peut-être ont besoin d'être rassurés par rapport à une situation précise. Et cette situation précise, ils ne la lisent pas dans la Bible. Donc, ils s'attendent à Dieu. Mais quand la personne leur dit, bah, ton mariage ceci ou ton mariage cela, là, ça s'adresse vraiment à eux.
Mais Chantal, puisque si la conséquence est que ces personnes-là se confient à ces gens-là, comme ils se confieraient à Dieu, ça prouve que ces gens-là, quand même, ils avaient un péché, celui de ne pas se contenter du Dieu invisible.
Mais le péché,
qui va te... Pardon ?
Je dis le péché, on l'a tous.
Ah, mais c'est ça ! Mais c'est ça que nous dénonçons. Ce péché-là qui amène à ce qu'on chute, on se laisse berner. Et nous, si on en parle, c'est pour éviter que certains chrétiens tombent encore, ou alors certains parmi nous qui n'ont jamais vécu ces choses-là, que eux, le jour où ils sont face à ces choses, qu'ils soient vigilants. Et troisièmement, certains d'entre nous qui sont appelés à avoir des postes de responsabilité, qui ne créent pas la convoitise chez les gens, qui présentent le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, mais qui ne se plie pas aux caprices des humains, mais qui amène les humains au bonheur par ses façons à lui de faire. C'est le Dieu qu'on doit présenter. Voilà.
Mais je dirais que nous qui sommes là aujourd'hui en train de parler, de dénoncer ces choses-là, on a aussi écouté des prophéties, on a aussi...
Mais on ne refuse pas les prophéties, on veut dire que...
Mais je veux dire qu'on a été dans cette situation
d'écouter... Mais oui !
Et puis aussi de revenir quand la personne qui faisait les prophéties venait, on venait écouter, on était là, quoi, parce qu'on venait toujours, bon, qu'elle soit là ou pas là. Mais je veux dire qu'on était quand même attentive, puis on aimait bien qu'on nous en donne une.
Mais c'est ce que j'ai dit, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut nous tuer. Donc Dieu veut qu'on fasse confiance en lui, le Dieu invisible, il a laissé son fils être crucifié pour nous. On doit déjà être basé sur ça. Maintenant que Dieu veuille parler par prophétie, il n'y a pas de problème. On prend ce qui est bon, comme Paul dit, on enlève ce qui est mauvais. Mais être comme ébloui, c'est dangereux. Ce n'est pas bon. On se dit, bon, on nous a parlé, c'est bien. Mais ce que nous voulons, c'est aimer le Seigneur. C'est tout.
Mais c'est ce qui me fait dire qu'on peut très bien ne rien demander, être simple, ne rien demander, et puis on nous donne, alors on prend, et puis on...
Non, mais là où on ne s'entend pas, c'est le côté être simple. Ce n'est pas parce que quelqu'un est silencieux, calme, qu'il est simple. Donc quelqu'un...
Je veux dire, moi, la personne qui ne réclame rien de spécial, quoi. Enfin, quand je dis simple...
Oui, mais s'il ne réclame rien de spécial, mais après qu'il est ébloui, donc c'est que quelqu'un, au fond de lui... Parce que il y avait cette semence-là.
L'homme est l'homme.
Ah, voilà, mais c'est ce qu'on dit.
Avec sa chair.
Mais c'est ce qu'on veut te dire, que non, l'homme est l'homme. Donc, il ne faut pas qu'on soit ébloui par les miracles ou les manifestations. Souviens-toi quand Jésus, les apôtres sont venus lui dire, mais on a fait des grandes choses. Il leur a dit, réjouissez-vous de ce que plutôt que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc notre joie, nous devons la tirer du fait qu'un jour, Dieu a eu pitié de nous, a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Et que nous faisons partie de ces sauvés-là. C'est ça notre joie. Maintenant, si notre joie devient tous les cadeaux de Dieu, on se fera piéger tôt ou tard. Tôt ou tard. Ok. Oui, Franck ?
En fait, la question que je me pose, c'est par rapport aux gens qui ont vécu des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance aussi à mettre la barre un petit peu trop opposée et pas rentrer réellement dans la plénitude de ce que Dieu veut ? Parce que, quelque part, par exemple, j'entends le pasteur, il roulait un Mercedes, bon, l'argent, etc., l'opulence, en fait, Dieu, il bénit, mais c'est la motivation, c'est l'opulence.
C'est la motivation.
La parole de Dieu nous dit aussi de chercher ardemment les différents dons. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il y a cette parole-là, mais ça veut dire que aussi c'est la motivation qui compte, et c'est comment on va l'utiliser en tant qu'outil.
Effectivement.
Mais il ne faut pas aussi dire, parce qu'on a été piégé par la prophétie, parce qu'on a été...
On doit rejeter les prophéties. Non, pas du tout.
J'ai l'impression que des fois, quand les gens sont blessés comme ça, il faut quand même un temps pour...
Oui, mais il faut un temps. Mais moi, je vis ça aussi, parce que, en tant que pasteur, quand les gens étaient blessés comme ça, ils ont du mal à faire confiance à un autre pasteur, même s'ils pensent que tu serais correct. Donc, mais il faut supporter ce temps-là qu'il soit guéri. Donc moi, j'ai fait face à beaucoup de personnes comme ça. J'ai attendu le temps qu'ils soient guéris. Donc on ne doit pas... Ils viennent d'écouter la parole qui leur avait dit « Soyez soumis aux autorités ». Ils ont été soumis, se sont fait avoir. Et ils changent d'église. Et on leur dit la même parole, ils disent « Attends ». On vient d'être soumis là-bas, on a eu ce qu'on a eu, quoi. Maintenant, voilà, avant de nous... Donc, il faut leur laisser le temps d'examiner et avant de se soumettre. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Et même, Je sais que beaucoup deviennent après allergiques à tout ce qui est richesse, tout ce qui est don spirituel, tout ce qui est miracle. Non, c'est pas, on comprend qu'au début, on soit comme ça parce qu'on vient de voir, de subir des déboires, mais sachant que Dieu continue à agir, Dieu parle par prophétie, il y a les dons spirituels, il y a les miracles, mais cependant, c'est des cerises sur le gâteau. Le gâteau lui-même, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, tu as ce qu'il faut. Maintenant, tout le reste, c'est du sucre glace que Dieu rajoute pour manifester sa gloire. Nous refusons pas cela. Du moment que nous avons accepté le gâteau, nous prenons aussi le sucre glace qui est dessus, c'est-à-dire tous ces dons-là, toute cette puissance-là, l'abondance matérielle aussi. Voilà. Et la beauté physique, tout ce que Dieu nous a donné comme sucre et glace, nous prenons. Mais nous savons que ce n'est que du sucre glace. La réalité, la gloire véritable, c'est Jésus lui-même. Quand nous avons Jésus, nous sommes arrivés au terminus. C'est ça qui est le plus important. Voilà, donc nous allons prier que Dieu nous aide à nous concentrer sur Jésus, à nous concentrer sur Dieu et non pas à entrer dans une quelconque convoitise qui va nous amener à la perdition, d'autant plus que certains ont vécu cela et ils nous témoignent. Vous savez, c'est une grâce, c'est ce qui me faisait rire, c'était la phrase « Je bénis Dieu d'en être sorti vivante ». Vous savez, pour ceux qui n'ont pas vécu ce genre de choses, une telle phrase paraît exagérée, mais moi qui ai vécu ça, je peux vous dire que c'est une phrase à propos. Le secte, c'est autre chose. On explique ça, mais quand on a vécu ça et qu'on en est sorti, on a l'impression d'avoir vraiment été sauvé de la mort, quoi. C'est vraiment une réalité. Il y a une telle domination. Je crois qu'on a vu Jim Jones. Certains ont vu Jim Jones. Il y a une telle domination qu'on n'a plus de vie personnelle. On n'a pas de vie. Vous savez, il y a des endroits même où on m'a parlé d'un groupe en Martinique où la femme du pasteur appelle les sœurs pour leur demander de ne pas s'appeler. Oui, les sœurs de l'église, vous n'avez pas le droit de vous appeler entre vous. Parce qu'à chaque fois que vous vous appelez, vous parlez trop. Et nous, on a vécu des choses. C'est-à-dire, le monsieur, avec ses prétendues prophéties et dons, il dit, moi, quand je passe à côté de quelqu'un, je sais ce qu'il pense. Alors, vous vous imaginez, donc dans ce cas-là, quand dès que vous voulez penser, vous dites, mais il va savoir ce que je pense. Mais quand la sœur dit que je bénis Dieu d'être sortie vivante, bien-aimée, je vous promets que c'est une phrase à propos. Faut pas blaguer. Moi, je dis que quand on n'a pas vécu ça, on pense que nous, on le fait peut-être pour critiquer d'autres églises. On se trompe, bien-aimée. Quand vous pouvez encore écouter des gens qui sont sortis de ça, bénissez Dieu de laisser de telles personnes vous parler. Parce que ce n'est pas du cadeau d'être dans des circonstances de ce genre-là. Tu n'as pas de vie, tu ne peux plus même réfléchir parce que tu as peur qu'on sache ce que tu penses et que ça devienne un problème pour toi. Et parce que tu as à un moment d'ailleurs, tu as l'impression que Dieu est pour cette personne et contre vous, quoi. Voilà, c'est ça la réalité. Oui.
Oui, c'est raisonnable, c'est une bonne chose pour un chrétien un chrétien qui a vraiment soif de la vérité, l'amour de la vérité, de quitter un lieu où ça ne va pas, où il a compris que Dieu n'agit pas, le Saint-Esprit lui met à cœur de quitter pour aller là où le Seigneur l'enverra pour écouter la bonne nouvelle, pour faire asseoir sa foi. Mais pour quelqu'un qui quitte là où il sent, il reconnaît que la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité, où il y a l'humilité, il y a la manifestation des fruits de l'esprit, pour aller ailleurs sans écouter Dieu, c'est aussi la convoitise ou c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire?
Oui, en général, c'est la convoitise. Hein. En général, c'est la convoitise. Hein.
Mais qu'est-ce qu'il va aller chercher ailleurs alors?
Mais un poste, quelque chose, un don, on lui a dit... Vous savez, comme il s'est écrit dans La Fontaine, le flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Si un pasteur passe ici et qu'à la fin de la prédication, il t'appelle à côté, il a dit, frère, j'ai vu en toi des dons supérieurs. Donc tu peux, Dieu va t'utiliser puissamment. Et lui, il part. Toi, tu restes là. Mais personne ne te dit ça. Parce que lui, il t'a dit que tu avais des dons puissants et que Dieu allait t'utiliser. Mais ici, là où tu es, personne ne te dit ça. Tu te dis, mais donc, eux, comme ils ne voient pas, je serai freiné ici. Le jour où ce pasteur-là viendra faire quelque chose dans le voisinage, tu seras tenté d'aller là-bas pour que tes dons qu'il avait vus se manifestent, puisque lui les a vus ici, on ne les a pas vus. Donc c'est de la convoitise. Voilà.
On ne se rend pas compte que le pasteur-là ne vient que ponctuellement.
Oh, quand on est dans la convoitise, hein, on ne se rend plus compte de tout ça. Nous, on le voit quand on donne des enseignements avant le mariage. Hein. On a beau expliquer les difficultés du mariage. Toi, tu crois que... Ils ne sont pas venus là pour écouter ça. Ils sont venus pour franchir le... aller chez eux après. Donc, ils viennent là, ils écoutent. Voilà, cause toujours. Nous, on attend la robe tel jour. Et donc, quand après les difficultés viennent, on dit, mais oui, mais je vous avais expliqué le jour des enseignements. Mais qu'est-ce qu'ils écoutaient? Donc, les gens sont déjà dans leur nuage. Ils n'écoutent plus. Donc, quand on est dans la convoitise, on n'écoute plus. Il y a comme quelque chose qui t'a entraîné. Et donc, ce qu'il faut, c'est refuser d'être dans la convoitise. C'est-à-dire qu'un chrétien doit dire, Dieu me suffit. Dès que Dieu ne lui suffit plus, c'est fini, il est mort. Vous savez, la Bible disait à des gens, ils sont morts avant même qu'ils meurent. Donc, ça dit que Dieu a déjà vu que c'est fini pour toi. Tu es mort. Donc, il y a des prophéties où on te dit, tu es déjà mort, mais tu es encore vivant. Mais on te dit que tu es mort. Parce que Dieu a déjà... Et je vous dis qu'un chrétien pour qui Jésus ne suffit pas, il est déjà mort. On l'aura toujours, tôt ou tard, par le diable. Jésus doit nous suffire. S'il ne te suffit plus, il y a des gens qui vont vous dire, oui, Jésus me suffit, mais s'il rajoute un mais, sachez qu'il est mort. Il n'y a pas de mais. Si Jésus te suffit, bien-aimé, plus que Jésus, qui est-ce qui a promis les dons spirituels? Est-ce que ce n'est pas Jésus? Qui a promis le miracle? Est-ce que ce n'est pas Jésus? Qui a promis qu'on fera des choses plus grandes que lui? Est-ce que ce n'est pas Jésus? Alors si tu dis Jésus me suffit, mais ça veut dire que tu es dans la contradiction. Parce que tout ce qu'on peut avoir ailleurs, Jésus est dedans. Il a tout en lui. Donc un chrétien pour qui Jésus ne suffit pas, ben, donc il est mort. À moins qu'un jour il se rende compte qu'il était mort et qu'il se repente, là il retrouve la vie. Mais il faut que Dieu nous suffise. Maintenant, du moment que Dieu nous suffit, toutes les autres choses qui se rajoutent ne deviennent que cerises sur gâteau. Et ça ne nous déstabilise pas. Mais si Dieu ne nous suffit pas, alors il y a des choses qui peuvent déstabiliser nos vies très facilement. Donc il faut qu'on soit vraiment vigilant, quoi.
Oui, pour le chrétien qui fait d'église en église, qui ne trouve pas, je dirais, entre guillemets, l'air bonheur, parce qu'ils veulent à tout prix
quelque chose
qu'on a cité ici.
Non, mais il cherche quelque chose.
C'est quoi cette chose?
Ah, mais bon, même donc moi, je crois que c'est ça. Dès qu'on ne se contente plus de Jésus, il y a une difficulté. Vous savez, moi, j'ai parlé en langue dans mon église d'origine au Maroc. Mon église officiellement était contre les dons du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai parlé en langue parce que moi, j'y croyais. Donc, c'est-à-dire que Jésus est réel. On ne peut pas se comporter comme si une église était devenue plus puissante que Jésus. Ou un pasteur. Si Jésus me suffit, moi j'ai été dans des situations où mon supérieur prenait une mauvaise décision sur moi et j'allais me rebeller comme ça. Le Seigneur me demande de prier. Je prie. Le lendemain, il change les décisions. Il prend les choses en favorable. Donc Dieu est vraiment tout puissant. Quand un chrétien n'a pas réalisé la toute puissance de Dieu, ça ne sera pas un bon chrétien. Il va toujours dépendre des aléas. Il cherche quelque chose, il cherche quelque chose ici. Et là où Dieu l'envoie, il n'ira pas parce qu'il ne voit rien du tout. Il veut aller là où ses yeux voient quelque chose. C'est ça. Et celui qui a vraiment fait la rencontre avec Jésus, même si on l'envoie au désert, il y va parce que Jésus est avec lui. Et il sait que Jésus, c'est tout. Voilà. Il ne tient pas, il ne cherche pas des choses qui vont plaire à ses yeux ou bien à sa tête, quoi. Mais il cherche à faire la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous devons chercher, nous tous, à faire la volonté de Dieu. Non pas à plaire à notre raisonnement ou à nos yeux. Ok, nous allons prier. Seigneur, merci de nous aider à chercher à faire ta volonté, Seigneur. C'est vrai qu'en tant qu'humains, nous avons des désirs, parfois des besoins, mais nous refusons, comme toi tu as refusé le 40e jour de jeûne, tu as refusé de transformer les pierres en pain, même si c'était un besoin naturel justifié à tous les niveaux, parce que le jeûne était fini aussi. Mais tu as refusé parce que tu n'as pas voulu qu'un besoin dicte ta conduite, ni un désir. Et nous ne voulons pas non plus que nos désirs ni nos besoins dictent notre conduite. Nous ne voulons pas non plus que la rébellion originelle qui est en nous tous, le fait de vouloir nous diviniser nous-mêmes, nous refusons cela. Nous voulons reconnaître que tu es le seul Dieu et toi seul dois régner dans notre vie. Merci Seigneur d'agir et de nous amener à cela. Ainsi nous te servirons simplement dans la gloire, la vérité et l'humilité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Père pour ton assistance. Amen. Que Dieu nous bénisse.